15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Tous les jours, de 15h à 16h, on vous consulte, nous aussi, en tout cas on essaye de répondre aux sujets de santé qui vous préoccupent. Je dis on parce qu'il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Lani.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré aux caries. Selon l'OMS, plus de 60% des enfants scolarisés dans le monde et près de 100% des adultes ont des caries. Alors en France, c'est peut-être un peu moins, heureusement, mais avec notre invité, le docteur Noémie Schlussenberg, elle est chirurgien dentiste, on va vous expliquer concrètement comment ça se forme une carie, pourquoi certains en ont plus que d'autres et bien sûr comment les traiter et les éviter surtout. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va faire un point de situation concernant le virus chinois dont on parle beaucoup ces derniers jours. Ce cousin du SRAS inquiète la communauté scientifique. Il nous dira ce que l'on en sait à ce stade. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler nutrition et plus précisément des graines très à la mode en ce moment. Quelles sont celles qu'il faut privilégier dans notre assiette, on vous dira tout. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, un point d'anatomie. On va parler du pénis. Parfois, il est un peu tordu, un peu courbé. Vous verrez que dans la majorité des cas, cela n'a aucun impact sur la sexualité.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour commencer cette émission, le vrai faux, vos questions au 39-21 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première. C'est celle de Claire. C'est une future maman de 27 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Je suis enceinte de 4 mois, donc le congé mat, c'est pas tout de suite, mais je suis déjà crevée. C'est quoi le congé pathologique? Tout le monde a le droit? Merci beaucoup.
Alors Jimmy, un point pour démarrer donc cette émission sur le congé pathologique. Congé patho, donc comme on dit chez les femmes qui ont eu des bébés souvent, quand on en a entendu parler. Ça n'a rien à voir avec le congé maternité. D'ailleurs, juste rappelez-nous rapidement, le congé maternité, c'est quoi?
Alors le congé maternité n'a pas besoin d'être prescrit par un médecin. C'est un congé qui permet de se reposer avant et après l'accouchement, donc un congé prénatal et postnatal. Il est de fixer, lorsqu'on a un enfant, à 6 semaines avant l'accouchement et 10 semaines après la naissance. Lorsqu'on a 3 enfants, on a le droit à un peu plus. C'est 8 semaines avant l'accouchement et 18 semaines après l'accouchement. Mais ce n'est pas prescrit pour des raisons médicales. Toutes les femmes y ont droit.
D'accord. Alors, à l'inverse, le congé pathologique pendant la grossesse, là, il doit être prescrit par un médecin. Et est-ce que toutes les femmes y ont droit, donc?
Oui, toutes les femmes, dès lors qu'elles travaillent, qu'elles soient salariées ou même libérales. Les femmes qui sont des professions libérales peuvent en bénéficier. Et c'est lorsqu'on a une grossesse pathologique. Pathologique, c'est au sens large. Un col qui se dilate, des douleurs avec une menace d'accouchement prématuré.
Mal au dos à cause de la grossesse.
Des lombalgies, ouais. Une hypertension qui serait mal équilibrée. À ce moment-là, le médecin prescrit un arrêt, ce congé pathologique, pour une durée maximum de 2 semaines. On peut le prendre en plusieurs fois, mais il faut le prendre avant la naissance. Si la naissance a lieu à ce moment-là, vous ne pouvez pas en bénéficier. Et pendant ce congé, évidemment que les sorties sont autorisées.
Alors, si pendant la grossesse, on a des complications médicales, mais qui nécessitent plus de 2 semaines, là, vous avez dit que c'était 2 semaines maximum, on fait comment, du coup?
Mais lorsqu'elle n'a pas de problème, il serait inconcevable de dire aux femmes d'aller travailler lorsqu'elles sont enceintes et si jamais elles sont malades ou souffrent. À ce moment-là, on fait un arrêt de travail classique, un arrêt maladie, comme n'importe quel travailleur.
Oui, le congé pathologique, c'est pendant la grossesse, c'est un congé de grossesse. Mais
exactement, avec une durée limitée. Et dans ces cas-là, l'indemnisation se fera sur celle qu'on fait habituellement lorsqu'on n'est pas enceinte, donc sur la base normale.
Et juste, puisqu'on parle de grossesse et d'arrêt maladie, de congé, est-ce que ça existe toujours le congé pour allaitement? Enfin, je ne sais même pas si ça a vraiment déjà existé d'ailleurs.
Non, il n'y a pas de congé spécifique pour l'allaitement. Peut-être qu'il en faudrait un pour inciter les femmes ou celles qui souhaitent d'allaiter. En revanche, en fonction des entreprises, parfois on peut avoir le droit à des avantages particuliers qui permettent de se reposer tout en gardant une partie du salaire, car l'obstacle est là. Les femmes qui s'arrêtent doivent faire face à des contraintes financières. Donc peut-être qu'il y a une piste à ce moment-là qu'on devrait augmenter un petit peu ce congé.
Parce qu'il y a pas mal de femmes effectivement qui doivent arrêter parfois, enfin qui ont, ça c'est difficile de reprendre le travail et d'allaiter en même temps, ça peut être effectivement compliqué. Merci Jimmy, on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois c'est Vincent qui nous a appelé de Saint-Malo, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Je fais du sport et depuis un petit moment je suis essoufflé en pratiquant la course à pied. Je suis fumeur mais pas trop. Du coup, je m'inquiète un peu. Est-ce que je suis asthmatique ou est-ce que ça peut venir d'une autre maladie? Merci.
Alors, Dimitri, ce monsieur qui est essoufflé donc, pendant le sport, alors il le dit, certes, il est fumeur, on en parlera après, mais un essoufflement qui n'est pas habituel, quelqu'un qui fait du sport habituellement qui n'est pas essoufflé, ça pourrait être quoi? Alors ici, on ne fait pas de la consultation en direct, on est d'accord, mais Dans l'absolu, on peut imaginer quoi?
Alors c'est vrai que c'est compliqué, mais ça peut être l'appareil respiratoire qui est en cause. Donc dans ces cas-là, l'asthme, pourquoi pas, mais il faudrait qu'il y ait des symptômes avec des sifflements, un bruit audible et pas simplement un simple essoufflement. Mm-hmm. Ça pourrait être le cœur, une insuffisance cardiaque, une valve qui marche moins bien pourrait donner ces symptômes, ou parfois des artères qui seraient un peu rétrécies, qui donneraient des symptômes, pas d'infarctus, mais on a une oppression lors de l'effort, et ben ça peut être le cœur. Donc cœur ou poumon, finalement la seule solution de le savoir, c'est de consulter, car il n'est jamais normal d'avoir un essoufflement lors d'un effort, en dehors du fait que si jamais vous reprenez du sport après un an de pause, là vous serez essoufflé, mais un essoufflement d'apparition secondaire doit systématiquement vous inquiéter.
Alors Vincent, il le dit un tout petit peu au milieu de la question. Bon, je suis fumeur accessoirement. Certes, hein, le tabac, ça peut quand même vraiment être la cause.
Oui,
parce que ça peut mettre des années, le tabac, avant de...
Exactement, ça peut être révélateur de la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. Pardon. C'est cette maladie inflammatoire des bronches qui fait que les bronches sont de plus petit calibre, l'air passe moins bien, vous sécrétez plus de mucus, vous toussez et crachez. Et puis, c'est un symptôme, lorsque la maladie avance, eh bien, vous avez cet essoufflement à l'effort, et pour des efforts de plus en plus restreint. Une seule solution, c'est de voir le médecin traitant qui peut-être vous adressera au pneumologue pour faire des épreuves de souffle.
Et sinon, ça peut être quelque chose d'éventuellement plus grave, quoi qu'il en soit. Il faut consulter un essoufflement brutal. C'est obligatoire, hein, c'est ça?
Exactement, parce que vous pouvez aussi souffrir d'anémie, une carence en fer. Vous
oui,
avez le droit.
Multiples raisons.
Exactement, multiples raisons. Donc c'est jamais anodin. Un bilan à minima, on ne parle pas de cancer ou autre chose comme ça, mais il faut consulter.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi, comme Vincent qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va faire un point de situation concernant le virus chinois dont on parle beaucoup ces derniers jours. Et puis, on accueillera aussi notre invitée, c'est le docteur Noémie Schlussenberg. Elle est chirurgien-dentiste et avec elle, on va faire le point sur les caries. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le docteur Noémie Schlussenberg, avec qui on va parler des caries, c'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Aujourd'hui, Jimmy, vous allez nous faire une petite mise au point sur ce virus qui a été découvert en Chine, à Wuhan, qui semble s'étendre en Asie. Vous avez vu, je l'ai hyper bien dit, c'était un petit peu
bravo.
Le défi du jour, je dois le dire quand même. Une réunion de crise a eu lieu hier à l'OMS et je crois qu'il n'est pas raisonnable de céder à la panique à l'heure actuelle. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment cette histoire finalement a commencé?
Alors oui, le 31 décembre 2019, l'OMS a été informée de plusieurs cas de pneumonie de cause inconnue dans la ville de Wuhan, cette province en Chine. Le 7 janvier 2020, on a découvert justement ce nouveau coronavirus en lien avec ces pneumopathies. Ça a été annoncé officiellement par les autorités chinoises et l'OMS. Et au 20 janvier, au moins 200 cas, et voire beaucoup plus, ont été rapportés, dont plusieurs décès, 17, et la maladie semble se propager en Asie tranquillement.
Alors, qu'est-ce que c'est que ce coronavirus?
Alors, le virus, jusqu'ici, était inconnu. On appelle ça donc un coronavirus, qui a été confirmé donc le 9 janvier. On l'a appelé 2019 nCoV, C-O-V. C'est la famille des coronavirus. Ça compte un grand nombre de virus. Quelques-uns provoquent chez l'homme des maladies le plus souvent bénignes, mais certains, comme ceux à l'origine du SRAS, le syndrome de respiratoire aigu sévère, ou le syndrome de respiratoire du Moyen-Orient, peuvent provoquer des symptômes beaucoup plus sévères. Le délai d'incubation de ces virus est généralement assez court, de 3 à 6 jours, mais parfois ça peut être un peu plus long, et ça peut aller jusqu'à 14 jours. Pour le moment, celui de ce coronavirus n'est pas connu, il serait peut-être un peu plus long.
Alors c'est quoi les risques pour la santé précisément?
Alors c'est un virus qui a l'origine de pneumopathie, c'est-à-dire d'infection pulmonaire. Vous allez avoir de la toux si jamais vous la contractez, être essoufflé, et puis ça peut aller jusqu'à un syndrome de défaillance respiratoire et jusqu'à une réanimation, et ça peut conduire au décès. Les personnes qui sont mortes jusqu'à présent avaient un terrain fragile sous-jacent avec des pathologies chroniques. Le mode de transmission serait d'homme à homme. Initialement, ce serait d'animal à l'homme, et puis finalement le virus aurait muté permettant une transmission entre les hommes. Et le marché de Wuhan a été fermé au 1er janvier. Et désormais, la ville est en quarantaine. 11 millions de personnes ne peuvent plus circuler.
Pas
Pékin
d'avion, pas
a
train,
décidé
ouais.
qu'il fallait bloquer le virus.
Et, alors, et en France, quelle est la situation? Il y a un risque ou
alors,
pas?
Alors, je pense qu'il faut être un peu raisonnable. J'aimerais rappeler que la grippe tue chaque année entre 3 et 13 000 personnes.
Ouais, c'est
donc
vrai.
Ça tue énormément. Et pourtant, la grippe ne fait pas peur.
Ça commence, l'épidémie, là,
l'épidémie
de la grippe,
est
faut le
en cours, mais les gens n'ont pas peur de ce virus, alors qu'on est très affolé quant à ce virus respiratoire. L'OMS a dit que, et la Réunion a montré que le risque d'importation en France est désormais considéré comme modéré. Et le risque de diffusion de la maladie dans la population française est considéré comme très faible. Ce qui veut donc dire qu'il y a une situation dans laquelle il faut absolument consulter en appelant le 15. C'est si vous revenez de Chine, de cette province, et que vous avez des symptômes respiratoires avec de la fièvre, de la toux, une gêne pour respirer. en appelant le 15. En revanche,
on
si vous avez...
On va pas aux urgences, ça c'est important.
Non, on va pas aux urgences chez le médecin traitant, parce qu'on risque de disséminer le virus et d'entraîner la maladie chez d'autres. En revanche, si vous ne revenez pas de cette province, il n'y a aucune raison de s'affoler, nous sommes en période de grippe. Des gens qui toussent, qui ont de la fièvre, qui sont cassés, j'en vois tous les jours.
Toutes les régions,
quasiment. Il est inutile à ce moment de céder à la panique. Seulement si vous revenez de cette province.
Donc vous avez croisé quelqu'un qui revient de cette province.
Exactement, là évidemment il faut appeler le 15.
Très bien, et bien on fera un point d'ailleurs sur ce coronavirus dans l'émission, dans son rendez-vous la semaine prochaine avec un invité de l'Institut Pasteur pour faire un point sur la situation. Merci docteur Jimmy Mohamed pour tous ces conseils. Et donc tout de suite nous accueillons notre invité pour le dossier du jour, c'est le docteur Noémie Schussenberg, elle est chirurgien dentiste dans les Hauts-de-Seine.
15h, 16h, son rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour.
Bonjour Noémie.
Un peu difficile votre nom à prononcer, je dois l'avouer. Noémie Schussenberg, c'est comme ça.
Oui, c'est
ça dit bien, très bien. Alors avec vous aujourd'hui, on parle des caries. D'abord peut-être quand même nous expliquer, nous donner une petite définition. Une carie, finalement, physiologiquement parlant, c'est quoi ?
Alors la carie, pour dire les gros mots pour commencer, c'est la déminéralisation des tissus durs qui est due à la fermentation acide des sucres par les bactéries.
En les gros, tissus durs, là, juste c'est
voilà,
quoi quand même ?
En gros, ça veut dire que quand on a trop de bactéries qui sont appelés cariogènes et trop de sucre en bouche, on finit par avoir des trous dans les dents.
Voilà, ah oui.
On va faire simple.
C'est simple comme ça, des trous,
voilà,
dans les dents.
Des trous dans
là,
les dents.
Là, on comprend bien, effectivement. Voilà. Les caries, on peut en avoir vraiment sur toutes les dents. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est quand même plus souvent sur les molaires. J'en ai pas eu beaucoup, j'ai dû en avoir deux dans ma vie, mais c'était les dents du fond. On peut avoir des dents cariées devant les incisives,
ouais,
par exemple.
Bien sûr, on peut avoir des caries sur toutes les dents, devant les dents de devant, les dents de derrière, les dents de lait ou dents temporaires et les dents permanentes.
Ah oui, vraiment. Vraiment, oui. Sur les incisives,
bien
de,
sûr.
Je peux avoir un trou
bien
devant.
Sûr.
Là.
Bien sûr,
moi,
on peut avoir.
J'en ai jamais vu, mais vous voyez beaucoup de choses, j'imagine, dans votre cabinet.
Oui, oui. Après, comme la carie est quand même une maladie qui est multifactorielle, pour avoir des caries sur les dents de devant, il faut vraiment avoir une présence de plaques importante. Ou alors, par exemple, la population qui est très à risque pour les caries, c'est les pâtissiers, par exemple.
Ah
parce
bon
que les vapeurs de sucre sont
les vapeurs.
Les vapeurs de sucre, ouais, nous causent des
caries.
Parce qu'ils
mangent plus de sucre.
Non, alors ils en mangent, oui, aussi, ouais. Mais le problème, c'est les vapeurs de sucre.
Ah ouais, ça peut causer, ouais, juste ouais, en respirant par le nez, ouais, ça va dans la bouche.
Ouais, c'est les pâtissiers sont une population assez compliquée à gérer par un dentiste.
Et chez eux, vous avez déjà vu des caries devant ?
Ah oui, bien sûr, ouais, c'est compliqué.
Jimmy ?
Ah bah oui, à chaque métier, sa pénibilité. Moi, je respire les virus des malades et je suis malade. Les pâtissiers, c'est les vapeurs de sucre.
Voilà.
Bon, le sucre, ça a l'air un peu plus sympa. Néanmoins, est-ce que les enfants peuvent aussi en avoir dès leur première dent de lait ?
Bien sûr, dès qu'il y a des dents, il peut y avoir des caries, puisque les caries sont dues à une présence de bactéries. À partir du moment où la bactérie est présente en bouche,
six mois
et que...
quand même, les dents, ça sort à 6 mois en général, en moyenne, il n'y a pas de caries.
Bah, il peut y avoir des caries, il peut y avoir ces bactéries-là quand, par exemple, la maman, le papa a léché la tétine. On en avait déjà parlé, je crois, la dernière fois. On goûte la purée pour voir si elle n'est pas trop chaude. Bah, on met dans sa bouche et puis après, on met dans la bouche de l'enfant. Donc en fait, on fait une transmission assez simple de la bactérie de la bouche de l'adulte à la bouche. Alors ça peut être la nounou aussi, hein. Il n'y a pas que les parents, hein, qui
vous
sont
faites ça,
en cause.
Vous goûtez la purée ?
Systématiquement, je goûte la purée et je ramasse la tétine pour l'immune pour éviter
qu'elle
meure. Il y a ça, la tétine. Mmh, je vais prendre moi les bactéries. L'enfant ne sera pas malade. Et ben je lui donne mes caries. Ben, je suis un père honteux,
un mauvais père.
C'est
donc c'est comme ça. Et donc vous en avez déjà vu vraiment des caries comme ça à cet âge-là ?
Oui, 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 oui.
C'est quoi la plus jeune carie ? Enfin, l'enfant le plus jeune qui avait une carie ?
Le plus jeune, il avait quelques mois. C'est 9-10 mois. Dès qu'il y avait une
ça tient à peine à 6, ça a déjà des caries.
Ouais.
Bon, docteur Schussenberg, on fait que débuter cette discussion. Vous restez bien sûr avec nous dans un instant. On poursuit notre voyage au cœur des caries. D'ailleurs, une carie, ça met combien de temps à creuser son trou, entre guillemets ? Vous verrez que ça ne fait pas systématiquement mal. Quand ça fait mal, d'ailleurs, ce n'est pas bon signe. On vous dit tout dans quelques minutes. Mais d'abord, un peu de musique. On écoute Louis Chédid. Ça s'appelle « Tout ce qu'on veut dans la vie ».
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Noémie Schussenberg. Elle est chirurgien-dentiste dans les Hauts-de-Seine. Alors docteur, une carie, c'est une destruction progressive de la dent. Hein, ça va toujours de l'extérieur vers l'intérieur, ce trou-là qui se forme. Ça ne peut pas venir de dedans et aller dehors, hein, c'est pas possible.
Ah non, ça vient toujours de l'extérieur. Ça vient de la bouche, puisque les conditions sont dans la bouche pour fabriquer la carie.
Ça se fait toujours dans ce sens-là.
Toujours, toujours.
Ça sert vraiment à quelque chose, par exemple, d'observer. Parce que bon, évidemment, si on a envie de savoir si on a des caries, le mieux c'est d'aller chez le dentiste. Mais est-ce que ça sert à quelque chose de s'observer les dents ? C'est-à-dire d'ouvrir grand la bouche après les avoir lavées, par exemple, et regarder si... on peut voir quelque chose, d'ailleurs ?
Ben, on peut déjà voir s'il est dans son propre. On peut déjà voir,
c'est la base.
Voilà, si jamais la gencive est bien propre, elle est dans son propre. Et puis, on peut observer ses dents et les dents des enfants, pour le coup, parce qu'on peut voir apparaître des trous dans les dents. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a une carie.
J'allais dire, c'est quoi qu'on regarde des trous? Mais bon, si on ne voit pas le trou, parce que s'il est entre deux dents, par exemple, bon, là, on ne verra rien. Mais il peut y avoir quoi? Un petit point coloré, un petit point noir? Enfin, je ne sais pas, alors, ça a une couleur, une carie?
Ça a une couleur. Alors, le petit point noir, c'est de la carie qui est arrêtée. Donc, ça veut dire qu'il y a de la carie qui a commencé à un certain moment parce qu'il y avait toutes les conditions pour que ça fasse de la carie. Par exemple, un mauvais brossage, une accumulation de sucre, trop de sucre trop fréquent aussi, parce que ça, c'est important. Et puis après, les habitudes alimentaires et les habitudes de brossage ont changé et la carie s'est arrêtée.
Ça a un peu guéri toute seule, quoi.
Alors, ça guérit pas vraiment. C'est juste qu'elle s'arrête, elle arrête de progresser, elle arrête de se creuser. Sinon, une carie qui est très active, une carie où il se passe beaucoup de choses, elle est plutôt jaune, plutôt orange.
Oui,
mais
c'est pas noir.
Vous allez pas, en regardant la bouche de l'enfant, quand on voit la carie, c'est qu'elle est vraiment très, très grosse.
D'accord. Jimmy ?
Et la carie ne fait pas toujours mal, ce petit trou qu'on peut observer dans la bouche, notamment des enfants, c'est souvent indolore ?
Oui. Chez les enfants, la dent temporaire, donc la dent de lait, la dent temporaire, n'a pas la même physiologie que la dent permanente. Et du coup, la carie en elle-même ne fait pas mal. Ce qui fait mal, c'est parce qu'on a le trou dans la dent et les aliments se coincent. Et du coup, ça appuie sur la gencive et la gencive s'inflamme. Et c'est ça qui fait mal. Mais c'est très rare. Alors, on peut avoir de temps en temps quand même les mêmes douleurs que chez l'adulte. C'est une douleur qui va durer entre 2 à 3 jours. Et après, plus jamais de douleur chez l'enfant.
D'accord, mais chez l'adulte, par contre, ça fait mal. Et si ça fait mal, c'est pas très bon signe. Hein.
Oh, pas forcément, parce que ça peut faire mal même pour une toute petite carie chez l'adulte. Une dent qui est bien vivante, avec juste une petite carie qui commence, ça peut, c'est le signe d'alerte en tout cas. En tout cas, dès qu'on a une douleur, il faut aller chez le dentiste
ça
assez rapidement.
Ça peut être aussi autre chose, mais ça peut être une carie.
Ça peut être autre chose, mais ça peut être une carie, oui.
D'accord, mais c'est pas plus. Je pensais que c'était plus mauvais signe parce qu'éventuellement elle était très profonde et que là ça touchait peut-être la pulpe dentaire. D'ailleurs, c'est quoi la pulpe dentaire?
Alors, la pulpe dentaire, c'est ce qui est à l'intérieur de la dent, c'est le nerf. C'est le réseau de nerfs, réseau de vaisseaux qui fait que la dent est vivante. Et qu'elle tient bien dans la bouche. Quoi.
Et quand la carie va jusque-là, ça ne doit pas être jojo quand même.
Non, alors après, au niveau de la douleur, c'est sûr qu'une douleur qui est juste assez fugace, provoquée par du froid, du sucre, on peut l'avoir et c'est une carie qui est assez petite. Quand c'est une douleur qui s'installe, qui ne part pas tout seul et qui reste longtemps, là, pour le coup, la carie est beaucoup plus installée et c'est beaucoup plus grave.
Le froid, le chaud, vous disiez, c'est toujours une carie parce que moi, alors, ça m'arrive parfois quand je bois quelque chose de très froid d'avoir une petite sensation un peu désagréable, mais ça ne fait pas forcément très mal. Mais ça, c'est forcément qu'il y a une carie.
Non, c'est pas forcément une carie, ça peut être aussi un brossage par exemple qui peut être un peu traumatique et du coup donc traumatique un peu fort.
Ouais.
La gencive qui est censée recouvrir complètement la racine de la dent descend un petit peu et on voit apparaître une zone qui normalement doit être protégée et en fait c'est une zone qui est très sensible et dès que
il y a
des choses,
ça,
de l'air, du froid.
D'accord, Jimmy.
Quand on dit carie, on pense à petits bobos dentaires, pas forcément graves, mais est-ce que ça peut évoluer jusqu'à, je ne sais pas, un abcès par exemple?
Oui, bien sûr. Hein. Oui, bah, si on ne la soigne pas, la carie, elle continue. À moins qu'elle fasse ce que j'ai dit tout à l'heure, où elle s'arrête, où elle va aller vraiment très très lentement, ça, le trou progresse le plus profondément possible dans la dent, arrive dans la pulpe, il y a une infection qui passe au niveau de la pulpe, qui passe au niveau des racines, ça fait un abcès.
Et ça, vous en voyez au cabinet des stades sévères comme ça?
On peut même arriver à un stade où la dent est complètement détruite, on n'a plus rien, la dent s'est détruite.
Pas chez les enfants quand même.
Si, bien sûr.
Vous en avez déjà vu?
Oui, bien sûr. Oui,
vous avez
en
souvenir une carie énorme comme ça, quoi,
plusieurs fois, plusieurs fois, des dents de lait, des dents temporaires qui ont été complètement détruites, on n'a plus que des petits bouts de racines qui restent dans la bouche. Quoi.
C'est des petits, c'est dingue quand même d'en arriver là. Ouais.
Avant d'en arriver là, ça met combien de temps? Est-ce que c'est pas quelque chose qui évolue en 15 jours? C'est
non.
long une carie
Non,
c'est,
non, c'est long, c'est très long. Alors j'ai pas les chiffres en tête de savoir combien de temps ça dure une carie, puisque comme c'est multifactoriel, ça dépend des dents, ça dépend des gens.
C'est-à-dire des dents, on n'a pas tous les dents aussi.
Les dents de lait sont des dents qui sont beaucoup plus fragiles, beaucoup plus faibles, puisqu'en fait elles sont
friables
là,
peut-être
plus,
aussi.
Voilà, ouais. elles sont plus poreuses. Elles sont là que pour une durée déterminée, donc elles sont pas aussi solides que des dents permanentes. Donc c'est des caries qui vont arriver plus vite sur les dents temporaires que sur les dents permanentes. Et puis après, il peut y avoir des petits trous dans les dents, ce qu'on appelle des onfractuosités, donc c'est-à-dire des petites zones.
Il y a des qualités de dents différentes.
Voilà, complètement. Ouais. Puis la position des dents aussi. On peut avoir des dents très serrées, des dents qui se chevauchent, et puis la salive, parce qu'effectivement, on peut avoir une salive qui est très efficace ou moins efficace.
Parce que la salive, c'est une bonne arme anti-carie, je crois. Hein.
Oui, tout à fait. saliver, en fait, va faire en sorte que les débuts de caries vont s'arrêter. Donc, elle va reminéraliser, va favoriser la reminéralisation de la dent.
Donc, c'est très bon de saliver. Il faut se. Il faut mâcher, la bouche sèche, on en parlait hier, je crois.
Ouais.
La bouche sèche, c'est pas bon, ça fait des caries.
Oui, c'est les gens qui ont des problèmes de d'hypocyalie, donc de qui salivent moins, sont des personnes à risque de caries.
D'accord. Et donc ça, effectivement, pour eux, on fait quoi? On donne des médicaments pour
qu'ils puissent saliver. Oui, on les fait saliver au maximum. On met du fluor pour en prévention de la carie. Et puis, il faut faire attention à l'alimentation, quoi, qui n'est pas les facteurs de risque de la carie.
L'alimentation, elle joue un impact sur la salive, sur la qualité de la salive ou pas?
Alors, l'alimentation, c'est plutôt le sucre, en fait. C'est que le sucre va faire que la salive qui est censée avoir une certaine... Alors, si je vous parle de pH, ça vous parle?
Oui, le pH, une acidité, c'est plus ou moins acide.
Voilà. Donc, la carie va arriver si jamais on a de l'acidité en bouche. Avec le sucre, on a plus d'acidité en bouche et du coup, la salive a du mal à remonter cette acidité et on a plus de carie.
Docteur Chaussette-Berg, nous allons évidemment continuer cet entretien dans quelques minutes. On reste ensemble.
Europe 1.
Dans un instant, on s'installe dans le fauteuil du dentiste. Certains n'ont déjà mal, hein, rien que d'y penser, mais il ne faut pas. Vous allez voir, on va vous expliquer ça en douceur. Nous allons vous expliquer comment on traite les caries sur les dents permanentes, mais aussi sur des dents de lait, car oui, même sur les dents de lait, les dents qui ne sont pas définitives, il faut traiter. On va vous expliquer pourquoi c'est important. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Noémie Schlusselberg, elle est chirurgien dentiste. Alors docteur, on passe maintenant au traitement, parce que c'est pas tout d'avoir des caries, il faut les soigner quand même. Une carie, comment on la traite? On commence par quoi? Je crois qu'il faut commencer par un bon nettoyage d'abord, hein, c'est ça, de la carie.
Bah tout à fait, on nettoie, la carie c'est donc les tissus durs dont on parlait tout à l'heure de la dent. Une dent c'est dur, hein, et avec la carie c'est tout mou. Donc on enlève toutes ces zones qui sont molles et on voit jusqu'où on arrive, on voit si on arrive dans la pulpe ou pas. Et si jamais on arrive dans la pulpe, on met certains traitements, soit on est obligé carrément de dévitaliser la dent.
On en parlera
tout à l'heure. Soit on peut mettre un petit pansement sur la pulpe si elle est vivante. Et si on est loin de la pulpe, c'est super, on remet des résines dedans. Alors maintenant, on met surtout de la résine. Donc ce qu'on appelle les résines, c'est les résines composites.
C'est un trou, ça veut dire que derrière, il faut le combler. Pourquoi d'ailleurs, il faut absolument le combler? Parce qu'on pourrait dire on laisse le trou une fois qu'il est nettoyé, qu'il est propre.
Parce que la dent, elle est là pour assurer une fonction de mastiquer. Et que si jamais il y a un trou, ça va pas fonctionner.
Oui, et puis ça risque de se remettre
dedans.
Et
après, ça va recommencer. Il y a des choses qui vont se recoincer dedans et la carie va recommencer parce que la dent n'est plus protégée, en fait. Ouais.
Donc on comble avec quoi? Alors, vous dites des résines d'abord.
Alors, des résines, quand c'est pas trop gros, c'est des résines composites. Nous, chez les enfants, on utilise ce qu'on appelle des verres ionomères. Donc,
alors, verre comme un verre pour boire, ionomère.
Voilà. Ionomère, donc c'est des produits qui sont extrêmement tolérants à la salive parce que c'est quand même assez compliqué dans une bouche d'être toujours tout à fait au sec. Et qui sont extrêmement tolérants dans le temps, donc on a très peu de reprises de caries. Donc les pédodontistes, on aime bien ces produits-là.
Pédodontistes pour les enfants. Hein,
voilà, pour les enfants. Et après, pour les adultes, si jamais c'est trop gros, ça va de la couronne, un onlay, c'est-à-dire une petite couronne au milieu de la dent. Couronne, après, on peut aussi être obligé d'enlever la dent si jamais c'est trop compliqué, trop grave.
Jimmy ?
Je dois avouer que mon fils de 3 ans a une carie.
Oh la
on
honte,
a dû l'année.
Fils de médecin,
fils de médecin, j'étais tétanisé. J'ai même pas osé dire j'étais médecin parce que tellement j'avais honte. Mais il a fallu la traiter. Ça a été une prise de catch durant une heure. Mais on a traité cette carie. Est-ce qu'on la traite de la même façon que la carie d'une adulte?
Oui et non. C'est-à-dire que de toute façon, il faut traiter de la même façon. Il faut enlever cette zone qui est abîmée.
Mais c'est une dent de lait, par contre.
Mais
sur
c'est
son
une dent de lait.
Ans, priori,
et puis il est petit. Alors 3 ans, on fait pas les mêmes soins chez un petit 3 ans et chez un adulte. Maintenant,
le
ce qui se fait
Mohamed,
beaucoup.
Petit Mohamed, vous le traitez comment alors? Parce que bon.
Je sais pas, je l'ai pas vu. Alors
apparemment, déjà vous l'attachez.
Ah non, jamais. Non, les tout petits.
J'étais allongé sur le fauteuil à le tenir les bras et les jambes. Et puis on avait quand même le masque pour un peu l'endormir.
Vous avez eu le méopa.
Ça m'a suffi.
Chez les petits, ça marche pas toujours le méopa. Mais là, c'est encore un autre sujet. Ouais. On va en faire une autre émission après.
On en parlera une autre
fois. On n'arrêtera pas de parler.
Mais du coup, dans le lait, on la traite pas de la même
donc,
façon.
Donc, du coup, alors, surtout chez les petits. Les petits, en fait, quand on, ce qui est compliqué, c'est de faire une anesthésie. Parce que quand ils sont petits, ils comprennent pas que l'anesthésie, ce qu'on fait, même si on leur explique, ils comprennent, ils aiment pas trop. C'est comme de faire un vaccin chez un enfant, ils aiment pas. Ils savent pas quand ça va s'arrêter. Donc, c'est une source de stress. Donc, ce qu'on fait souvent, C'est ce qu'en fait, on ne traite pas complètement la carie, on laisse un petit peu de carie au bout.
Ah bon?
Et on met justement les verionomères dont j'ai parlé tout à l'heure, qui reminéralisent encore, donc qui redurcissent cette dent et on étouffe la carie et on étouffe les bactéries. Donc la carie, normalement, ne recommence pas.
Ça meurt quoi, en fait.
Ça meurt, ouais. Alors on surveille dans le temps, mais ça évite de faire des soins qui sont très invasifs chez des petits. Alors il faut y retourner plus tard, quand ils ont 4 ans et demi, 5 ans. Mais à 4 ans, tout est beaucoup plus simple, parce qu'ils comprennent toujours tout, moyenne section,
c'est
à l'école, c'est plus simple.
Il faut les soigner,
voilà,
etc.
Voilà.
Donc, mais on est vraiment obligé de la soigner, la dent de lait, parce que, moi je sais pas, vous l'arrachez, puis on est tranquille, au moins il n'y a pas de carie. Enfin, il n'y a pas de gros soins. Vous auriez enlevé la dent, là, au petit du Jimmy Mohamed. Peut-être que du coup, au moins, il n'y a pas de carie à soigner, des soins longs. Bah, remarquez, arracher une dent chez un petit, ça doit être long quand même.
Non, c'est plus rapide.
Ah oui.
Non, c'est plus rapide d'enlever la dent.
Mais
parce que la dent, elle est là pour avoir elle a une fonction. Elle a une fonction de mastication, elle a une fonction de gardien de l'espace, elle a une fonction pour la phonation. Donc
moi, je
lui
enlevé à Jimmy, vous me l'amenez. Ça a vite réglé la carie.
Je ne vous l'amènerai jamais après avoir dit ça.
Donc il faut pouvoir parler correctement, il faut pouvoir manger.
Ouais. Vous n'aimez pas trop enlever des dents chez les petits, hein?
Non, moi j'aime pas ça. Après, quand on n'a pas le choix, il faut le faire. Mais et puis la dent permanente qui est en dessous, il faut qu'elle ait un guide. Si elle n'a plus le guide pour sortir, elle met beaucoup plus de temps derrière. On peut avoir des problèmes d'orthodontie derrière. Donc la dent, elle est quand même là pour avoir une certaine fonction. Bon. Si on peut la conserver, c'est toujours mieux.
Et quand on n'a pas, vous dites si, ça veut dire que parfois on n'a pas le choix.
Parfois on n'a pas le choix.
C'est-à-dire quand est-ce qu'on
n'a
pas le choix chez un enfant, par exemple ?
Alors on n'a pas le choix quand c'est des tout petits ou qui ont eu des dents cassées, comme on a parlé la dernière fois, des dents complètement cassées, on est obligé de les enlever, ou alors des énormes caries où l'enfant ne se laisse pas faire du tout et on n'a pas d'autre solution.
Mais vous êtes triste quand vous devez enlever une dent, j'ai l'impression.
Oui, toujours.
Moi je crois que les dentistes adoraient arracher des dents, mais non, finalement c'était un mythe. Chez les adultes, la consigne, là, c'est par contre, il ne faut pas attendre, hein, je crois, il faut aller assez vite.
Jamais. Oui. Il faut faire des contrôles réguliers, aller tous les ans, si tout va bien chez le dentiste, au moins faire un détartrage, le dentiste fait des radios, on vérifie qu'il n'y a pas de carie cachée.
Jimmy ?
Est-ce qu'il y a des adultes plus à risque de faire des caries ? Je ne sais pas, un patient diabétique doit faire surveiller ses dents plus régulièrement qu'une autre personne où on est tous à peu près égaux face aux caries ?
Il y a comme les par rapport aux glucides, ce qu'on a parlé tout à l'heure,
le sucre,
donc tout ce qui est tous les gens qui sont dans les métiers d'alimentation.
L'alcool peut-être aussi, non ?
Alors l'alcool, là c'est plutôt on est à risque sur les cancers, les alcoolo-tabagiques, c'est les cancers de la gorge.
Mais pas
là,
tellement les caries.
Non, pas trop les caries. Après les caries c'est un peu tout le monde, hein. Les gens qui si jamais vous prenez 10 cafés sucrés dans la journée, ça fait
ça augmente le risque de caries. Ouais.
Voilà, c'est ça. Donc après non, il y a des populations plus à risque. Pour les diabétiques, oui, il faut qu'ils fassent attention pour l'état de leur gencive, mais les caries en elles-mêmes, alors là, ça sort un petit peu puisque c'est les adultes, ça sort de ce que je
connais
bien.
Donc si on y va une fois par an chez le dentiste ?
Mais si on y va une fois par an, oui, c'est bien. Après, quelques personnes vont devoir aller deux fois par an. Nous, les enfants, c'est en général deux fois par an, surtout quand il y a déjà eu des caries, qu'on a déjà des choses à surveiller. C'est deux fois par an, c'est bien.
Chez dans mon yaourt, je mets plutôt du miel, je suis moins à risque que les autres sucres, entre guillemets,
les édulcorants.
Ah ouais, d'accord, bon, elle veut vraiment pas, elle a confiance en fait qu'elle donnait jamais de bonbons à ses enfants. Non, seulement elle est dentiste, mais en plus,
je suis une mère.
C'est dur.
Dure.
Non, mais attendez, ces heures de bonbons, là, il y a un fondement ou c'est juste que vous êtes méchante avec vos
c'est
enfants
et
que vous voulez pas. Non, mais est-ce que, je sais pas, donner des bonbons aux enfants, mais s'ils se brossent correctement les dents, qu'ils ne prennent pas de boissons sucrées régulièrement? Est-ce que c'est grave pour de vrai ou...
Non, c'est pas grave, mais c'est vrai que moi, j'ai jamais mangé de bonbons quand j'étais petite, j'aime pas ça.
Bon, en tant que dentiste, pas en tant que maman.
En tant que
maman,
dentiste,
mais...
les consignes, c'est les bonbons. On a le droit aux bonbons une fois par semaine. Au niveau de la quantité, on peut se lâcher. C'est-à-dire, si l'enfant veut manger
voilà,
le paquet
là,
de bonbons en entier, il se lâche. Ah, mais oui, quand même, on a le droit.
Oui, mais dites-le, ça fera du bien aux Français.
C'est une maman sévère, mais
on
une dentiste raisonnable. Très bien. Alors, je crois qu'il y a quand même des formes de dents. Vous le disiez tout à l'heure, les gens qui ont des dents un peu les unes sur les autres, ou des formes même particulières de dents qui sont plus à risque de caries. C'est quelles formes de dents ? Enfin, je sais pas comment elles sont vos dents, Jimmy. J'ai jamais
elles
regardé.
Sont parfaites, c'est bien, je sais pas.
C'est quoi les formes de dents à risque ?
C'est ce qu'on appelle les sillons anfractueux. Donc les sillons, c'est
quoi,
alors on parle des dents du fond surtout.
Ah,
les
oui.
dents de devant, globalement, si on brosse correctement ses dents et qu'on fait un petit peu attention, on a pas de souci. Donc on parle des molaires. Moi, j'explique toujours, la molaire, c'est comme une montagne. Donc on a le haut de la montagne, ce qu'on appelle les cuspides, et au fond, on a la vallée. Et donc la vallée peut être profonde, c'est-à-dire qu'il y a plein de petites choses qui peuvent passer, les bactéries, les sucres. et la brosse à dents a du mal à passer. Et à ce moment-là, ça peut faire des caries.
Avec la vallée qui est profonde dans la molaire, voilà, c'est plus à risque. Un enfant qui a beaucoup de caries, comme le petit Mohamed...
Non, il en a une, déjà, calmez-vous.
Hein, est-ce que ça veut dire que ça sera un adulte avec des caries, forcément? Un enfant qui a beaucoup de caries, non?
Non, pas forcément. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand il y a un enfant qui a des caries, on le surveille de manière assez...
Bon, je dois confier quelque chose. Moi, mon fils, il en a déjà eu 3 à 10 ans. Donc,
donc madame me fait la morale en plus.
Je savais que c'était tous les 6 mois. Donc c'est tous les 6 mois,
on est
d'accord.
C'est tous les 6 mois, on surveille tous les 6 mois. Par contre, oui, il faudra. C'est comme c'est une habitude, c'est des habitudes alimentaires et des habitudes de vie. À partir du moment où on a réussi à changer que le brossage est correct et que les enfants et là en l'occurrence les parents ont compris ce qu'il fallait faire pour ne pas avoir de caries, globalement ça se passe très bien et après il y en a plus quoi.
Alors dans le traitement de la carie, ce qui va faire la différence, je crois, c'est la profondeur de la carie. Vous l'avez dit, ça dépend si elle touche la pulpe ou pas. Parfois ça peut prendre plusieurs séances. Il faut venir plusieurs fois chez le dentiste pour soigner la même carie?
Alors, chez les enfants, non, parce qu'on fait le plus efficace, mais chez les adultes, oui, bien sûr, parce que y a des choses qui sont compliquées à faire, il y a des accès compliqués, il y a des traitements, parfois il faut désinfecter avant de pouvoir refermer, et puis quand il y a des couronnes, quand il y a des prothèses,
ça se fait en plusieurs fois.
Tout ça, ça se fait en plusieurs fois.
Donc c'est pas qu'un bobo quand même, hein, la carie, on comprend de mieux en mieux, là. Jimmy?
Et parfois, il faut dévitaliser la dent, mais on ne comprend pas toujours ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Alors, ce qu'on dit vulgairement dévitaliser, en fait, la dent, elle est déjà plus vivante. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller nettoyer au bout des racines. C'est comme moi je t'explique pareil, c'est comme un arbre en fait. Une dent, il y a des racines pour bien tenir dans la gencive. Et on est obligé d'aller nettoyer l'intérieur des racines, de désinfecter. On rebouche avec un produit, on laisse jamais une dent vide. Et puis on referme. Et c'est ça qu'on appelle la dévitalisation.
Mais c'est pas une dent morte alors? Une dent dévitalisée, elle peut être morte, elle quand peut. Même. C'est l'arbre, il est mort après alors.
Voilà, alors soit on doit faire ce traitement parce que la carie est très très profonde et on est sur une dent d'adulte, on est sur une dent permanente et sur un adulte.
C'est quoi l'avenir d'une dent dévitalisée alors?
Elle est plus fragile, donc il faut y faire attention. Alors soit on met un composite dessus si c'est bon, on met une couronne. Il faut juste y faire attention parce qu'elle est plus fragile, elle est plus cassante.
Mais elle va rester dans la bouche quand même, même si elle est morte, elle va pas tomber.
Le but c'est qu'elle reste dans la bouche.
Elle peut rester accrochée même si elle est plus vivante.
Bien sûr.
Mais elle va pas changer de couleur aussi, parce qu'on imagine que quelque chose qui est dévitalisé, mort, ça va devenir noir.
Les dents qui sont mortes, elles changent de couleur, elles deviennent un petit peu noires. Mais ça, on a plein de traitements. Les dentistes ont plein de traitements pour que esthétiquement, ça se passe bien.
On va évidemment maintenant passer quand même à la prévention, parce que bon, les caries, on a compris, ça se soigne, mais bon, ça n'a pas l'air quand même tout à fait agréable. On va faire de la prévention. Comment on évite d'avoir des caries? Le sucre, on en a parlé quand même un petit peu, mais le brossage, c'est vraiment indispensable, parce que les bactéries et la plaque dentaire, ça fait des caries, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait. La première des préventions, c'est effectivement le brossage. Hein. On brosse ses dents au minimum 2 fois par jour. Donc le matin après le petit déjeuner, et le soir avant d'aller se coucher. Une fois que les dents sont brossées le soir, on ne boit plus rien, on ne mange plus rien, on a le droit de boire de l'eau. Si on remange quelque chose, quoi que ce soit, il faut rebrosser les dents derrière. Donc ça, c'est déjà la première base de la prévention. Après, c'est 4 repas par jour. Donc on mange le matin, le midi, le goûter pour les enfants, voire même pour les adultes si on veut, et le soir. À partir du moment où déjà on respecte ces deux bases-là...
C'est bien. Avant, on conseillait 3, maintenant vous êtes un peu plus flexible.
Si, on peut faire 3, mais bon, c'est qu'après, avec les vies qu'on a maintenant, et puis les enfants...
Non, mon assistant, Benjamin Lévesque, se lave les dents plusieurs fois par jour, non-stop, sa brosse à dents.
Je suis sûre que Benjamin n'a pas de carie.
Bah sûrement, je ne sais pas. Voilà. Il me dit dans l'oreille, effectivement, qu'il n'en a jamais eu. Bon, donc, on devrait tous faire ça, c'est bien.
Donc, si on respecte déjà ça, on a déjà moins de facteurs de risque. Après, si on sait qu'on a des dents un petit peu tordues, entre guillemets, qui se chevauchent, ou si on a déjà eu des caries, on a un facteur de risque supplémentaire, donc il faut aller faire ses visites chez le dentiste.
Il y a des gens qui ont de la chance, qui ont une hygiène dentaire bof-bof et qui n'ont jamais de caries.
Oui, ça arrive.
C'est vrai. Hein,
ouais, c'est injuste, mais ça arrive.
Je ne citerai personne, mais je connais quelqu'un qui ne se lave pas très souvent les dents et qui n'a jamais eu de caries.
Ne me regardez pas, moi non, je me brosse les dents. Je vois me regarder.
C'est quand même fou, ça. C'est la quoi? C'est la génétique qui fait ça?
C'est qu'en fait, il y a aussi les facteurs individuels. C'est ce qu'on appelle l'hôte. C'est-à-dire, chaque personne est différente. C'est la même chose qu'avec les virus. Hein. Chaque personne, on va avoir un virus. Et puis, une personne A va développer le virus d'une certaine manière et une personne B le virus d'une autre manière. Donc, c'est la même chose avec les dents, en fait.
Jimmy?
À partir de quel âge on brosse les dents des enfants et à partir de quand on peut arrêter les surveiller? L'erreur que j'ai commise, c'est de laisser mon petit 3 ans se brosser les dents seul. Je pensais qu'il faisait bien le geste, mais en fait, ça n'allait pas du tout.
Non. Dès qu'il y a une dent, on peut mettre une petite... Il y a des petites brosses à dents en caoutchouc qui sont juste pour habituer les enfants à avoir quelque chose dans la bouche. Et puis, dès que les molaires sont là, vraiment, c'est très important.
Ça apparaît à quel âge, les molaires?
C'est
6 ans.
Non. Alors ça, c'est les molaires des dents permanentes. Ah, oui. Ouais, ça, c'est les molaires des enfants. Non, en gros, les petits, à partir de d'un an, vous pouvez commencer vraiment. Enfin, vous commencez vraiment à brosser les dents. On continue à surveiller le brossage des dents jusqu'à ce que l'enfant soit vraiment très très consciencieux, très efficace. En gros,
5, 6 ans.
Ouais. Tant qu'il sait pas écrire, moi c'est ce que je dis, parce qu'avant on parlait des lacets, maintenant les enfants ils savent plus faire les lacets, ils ont des scratchs sur leurs chaussures. Donc tant que l'enfant ne sait pas écrire en attaché, il n'a pas la motricité fine qui permet de faire un brossage.
C'est un bon repère.
C'est un bon repère ça. Juste pour terminer, vous avez un tout petit peu amorcé tout à l'heure, je crois qu'il y a un vernis quand même qui est possible, vernis à base de fluor qu'on peut mettre sur les dents des enfants qui sont à risque élevé. Hein. C'est quoi ce vernis rapidement ?
Alors, donc il y a deux choses. Il y a le vernis fluoré qui se pose par le dentiste parce qu'il est extrêmement concentré en fluor au moment de l'apparition des premières molaires permanentes et après des autres dents permanentes qu'on pose sur les dents. L'enfant après ne doit pas manger pendant entre 2 et 4 heures, ce qui est toujours un peu parfois plus compliqué à gérer. Et ça redurcit cette dent qui est en cours d'éruption, en train de sortir dans la cavité buccale. Et ça la renforce. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est justement boucher le fond de la vallée qui peut être très profonde par une résine toute fluide. Et ça empêche que les bactéries...
On bouche les sillons, hein, c'est comme ça que vous appelez ça.
On bouche les sillons, voilà, c'est des silentes. Et ça empêche que la carie se mette au fond.
Donc deux gestes de prévention qu'on peut faire chez le dentiste. Merci beaucoup Dr Schussenberg d'être venu sur notre plateau, tout nous expliquer sur la prise en charge des caries, surtout évidemment sur comment les éviter, c'est toujours mieux. Merci encore.
Merci.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on parle de nutrition et plus précisément des graines. Alors, très à la mode en ce moment. Quelles sont celles qu'il faut privilégier dans notre assiette? Celles qui font le plus de bien à notre organisme? On vous dira tout. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors on passe maintenant à notre séquence Les Bobos du quotidien. Aujourd'hui, on parle de nutrition, plus précisément d'un type d'aliment à la mode en ce moment, les graines. Et vous, consommez-vous des graines de chia, de sésame ou même de courge? Savez-vous ce qu'elles nous apportent en termes de nutriments? Sont-elles bonnes pour la santé? Benjamin Lévesque a été vous donner la parole, on écoute son micro-trottoir.
Moi, j'en consomme pas trop beaucoup.
C'est sur le pain, c'est dans les salades.
Il y a les graines de chia, il y a des graines de tournesol, de graines de sésame.
Dans les céréales, donc dans le pain, quand j'en mange, c'est souvent graines. Quand je prends un burger, il y a souvent des graines par-dessus le pain. Dans les salades, c'est partout.
C'est plein de vitamines, donc c'est très bon pour la santé. Il y en a qui en mangent comme ça, soit quand ils font un petit apéritif, ils prennent des petites graines. Hein. Ou alors quand ils cuisinent, ils en utilisent.
Je trouve que ça fait du bien, ça fait bien digérer.
Les protéines, peut-être, sans doute.
Et on peut les mélanger avec du fromage blanc.
Comme ça, une poignée de pavot, ça devient toxique à un moment donné, parce que si tu manges une poignée de pavot, il y a une dose létale.
Moi, j'en vois de plus en plus dans les magasins, dans les surfaces, et surtout dans les magasins bio.
Alors Jimmy, est-ce que vous d'abord, vous faites partie de ces Français qui sont mis à manger des graines comme des oiseaux?
Soyons honnêtes Mélanie, est-ce que j'ai une tête à manger des graines?
Non, plutôt des entrecôtes.
Ouais, hein. Ou du kebab, salade, tomate, oignon, ketchup, mayonnaise et là je suis au maximum.
Bon, je fais une blague sur les oiseaux mais il faut dire quand même que les oiseaux ils avaient tout compris. Parce que même si Jimmy n'en consomme pas, c'est souvent très bon pour la santé, on va en dire un mot aujourd'hui. Jimmy, ils sont bons, c'est tout petit les graines mais c'est plein de bons nutriments je crois.
Oui, évidemment qu'il n'est pas question de manger que ces petites graines comme les oiseaux, mais finalement ça peut être pas mal pour compléter et booster son équilibre nutritionnel global, ça prend pas beaucoup de place et donc ça permettrait en plus d'éviter de manger les petites viennoiseries sucrées.
On peut manger des graines, c'est plus sain.
Exactement, comme quelques graines de tournesol ou de courge par exemple. Donc il y a un côté pratique avec ces petites graines.
Alors on va pas parler évidemment de toutes les graines qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce, dans le détail. D'abord on va parler quand même de vos préférées. Non, je mens parce que vous avez dit que vous ne mangiez pas. En tout cas, celles qui sont très à la mode en ce moment sont les graines de chia. On va peut-être commencer par celle-ci.
Oui, c'est ces petites graines qui sont toutes petites et toutes noires. Alors le point négatif, c'est que vraiment local. Ça vient d'Amérique du Sud. Donc pour le bilan carbone,
c'est
on repassera.
Génial,
En revanche, elles sont pleines de fibres et une bonne teneur en oméga 3 et en oméga 6. Alors au niveau du goût, c'est vrai que ça n'a pas un très grand intérêt.
Tout seul comme ça, moi j'ai goûté, ça n'a pas trop de goût, c'est un goût neutre.
Du coup, essayez
de
le mettre dans la salade, voire de les faire tremper dans du lait et ça donne une boisson un peu plus
onctueuse.
Oui, comme
ça c'est pas mal, c'est vrai, dans des petits smoothies comme ça, ça peut donner un petit goût rigolo en
Exactement,
plus.
Exactement, et puis un petit effet coupe-faim, donc on évite encore une fois de grignoter.
Alors on passe à une autre graine qu'on peut peut-être conseiller à nos auditeurs, les graines de sésame. Celles-là, je les connais bien, moi je les cuisine un petit peu. Elles sont connues quand même, hein, celles-ci plus, non?
Exactement, en plus surtout qu'elles sont riches en calcium. Une cuillère à soupe couvre un quart de vos besoins.
Ah ouais, c'est pas mal. Alors pour la cuisine, j'ai peut-être donné moi le conseil culinaire, parce que vous ne connaissez rien. Les graines de sésame, c'est très bon, et donc c'est hyper facile à utiliser. On peut les intégrer par exemple dans une vinaigrette. Jimmy, vous mangez bien des salades, vous faites des vinaigrettes, et ben vous en mettez un petit peu avec l'huile d'olive, avec un petit peu du citron, du sel, du poivre, et ça fait un super, super vinaigrette pour la salade, ou même cuite. Alors là, c'est encore meilleur. Petit conseil du jour, par exemple dans un wok de poulet ou un petit sauté de légumes, vous faites torréfier les graines de sésame comme ça avant. C'est des graines qui supportent bien la chaleur, et donc en plus ça va donner un petit goût encore meilleur que cru finalement. Une fois torréfié, c'est encore meilleur. Alors je m'arrête là pour les conseils culinaires. Je vois Jimmy, vous salivez devant mes recettes à base de graines. Il y en a une autre de graines qui peut être intéressante, hein, je crois.
Oui, graines de tournesol riches en folate et vitamine B, vitamine E qui agit comme antioxydant et participe à la prévention des cancers ou de l'inflammation.
C'est les pipas.
Les fameuses pipas. Mais attention, les pipas sont souvent riches en sel, donc attention, préférez celles qui sont sans la coque ou vous mangez simplement.
C'est dommage, j'aime bien les craquer comme ça, la pleine de sel. Bon, allez, on arrête, on oublie, c'est nature, c'est meilleur. Alors, c'est terminé. Du coup, dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, c'est la chronique sexo. Avec Catherine Blanc, aujourd'hui, on fait un point d'anatomie. On parle de pénis. Parfois, il est un peu tordu, un peu courbé. Vous verrez que dans la majorité des cas, cela n'a aucun impact sur la sexualité. Mais avant ça, un peu de musique, c'est Lil Nas X avec son titre Alton Road.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et à présent, on passe donc à la chronique sexo. La chronique sexo de Catherine Blanc, qui est là dans le studio à nos côtés. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie. Bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question de Bastien, 17 ans, je vous la lis. J'envisage de faire l'amour pour la première fois, mais suis un peu gênée car j'ai remarqué que lorsque je bandais, mon pénis était un peu de travers. Que va-t-elle en penser? Suis-je anormal? Catherine, est-ce qu'on peut rassurer le jeune Bastien, des pénis tordus, enfin en tout cas pas tout à fait droits? C'est assez fréquent finalement.
Ah bah ils sont plus fréquents que les autres, puisque nous sommes faits comme ça, nous sommes pas symétriques, et il y a des hommes qui bandent plutôt à droite, d'autres qui bandent plutôt à gauche, certains bandent tout droit, mais c'est assez exceptionnel et ça n'empêche nullement la sexualité. Ce qui est plus problématique, c'est quand il y a des coups durs de la verge et qui du coup font que quand l'homme bande, il va bander vers le bas, vers ou vers la
cuisse. Ça peut gêner la pénétration, etc. Là pour le coup.
Ça oblige en tout cas. Alors parfois, ou empêcher la pénétration pour certains cas, mais sinon ça oblige à des gymnastiques différentes pour une adaptation dans l'emboîtement de ces deux corps.
Mais c'est quoi un pénis de travers? Là, ce qu'il veut dire sûrement, parce qu'il ne précise pas, il ne dit pas qu'il y a un coude ou ce que vous voulez dire.
Non, là, ce qu'il est en train de dire, c'est juste qu'il bande un petit peu sur... Quand il bande, ça va légèrement sur la droite ou sur la gauche, ce qui est absolument normal. Simplement, il s'observe beaucoup parce que Bastien, ben voilà, il doit faire l'amour, donc il regarde si tout va bien.
Il a 17 ans, c'est normal.
Il a 17 ans, il a plein de questions de ce qu'il va devoir faire, plein de questions sur ce qu'il leur va renvoyer. Il s'évalue, il se dit qu'il doit arriver à être performant, donc évidemment qu'il regarde un petit peu tout, il regarde la monture, et donc du coup, évidemment, il est un peu dur avec lui-même, et à cette occasion, traduit un peu le doute qu'il a d'une façon générale quant à lui. Mais ça, rien de très anormal. Nous n'avons... Deux femmes n'ont pas les deux seins de la même grosseur, parfois pas exactement à la même hauteur. Nous n'avons pas les yeux exactement à la même hauteur. Nous ne sommes pas symétriques. Donc et c'est ça qui fait la singularité.
Alors lui, il est tout à fait symétrique et je vois qu'il a une question. Jimmy.
Vous avez raison. Et on a même une testicule qui est plus haute que l'autre.
Voilà,
c'est normal.
Il se confie enfin personnellement.
C'est
ça fait
lié
du bien, Jimmy.
Au rapport de la veine en fait, rénale qui se jette. Enfin, bref. Absolument. Donc avoir une testicule plus haute que l'autre ou un testicule, c'est...
Vous confirmez
je
et
confirme,
vous
voilà.
En témoignez. C'est
pour
normal.
La courbure, on s'arrêtera là au niveau du témoignage. Mais si vous l'avez dit, ça ne pose pas de problème dans les rapports sexuels. On parle vraiment de la courbure, le fait d'avoir une forme d'arrondi. On ne parle pas de la coude,
une
coudure qui, elle, peut poser problème. Est-ce qu'au contraire, ça peut être un atout dans certaines positions? Est-ce que ça peut être procurer, je ne sais pas, un peu plus de plaisir à l'un des partenaires?
On parle du naturel, hein,
du naturel,
ça, oui. Mais en fait, ça empêche. Enfin, selon comment un homme est en érection, évidemment, ça va entraîner une adaptation de la femme avec laquelle il va faire l'amour, puisque si, par exemple, ils veulent faire l'amour dans la position de la cuillère, c'est-à-dire tous les deux couchés sur le côté et emboîter l'homme derrière la femme.
Il faut que ce soit du bon côté.
Eh bien, il y a un côté qui ça va solliciter des endroits différents, mais pour que ce soit facile, il y a un côté souhaiter qu'il y ait un meilleur côté pour lui, pour son confort, et qui va du coup solliciter des points particuliers. D'où l'intérêt d'ailleurs de changer de position, parce que selon les positions, un pénis ne touche pas, ne stimule pas les mêmes zones du vagin d'une femme. Donc deux hommes vont stimuler dans la même position des points différents, parce que justement, le pénis n'est pas exactement pareil, et heureusement, sinon ça n'aurait aucun intérêt d'avoir d'autres partenaires dans sa vie. Oui. On ne ferait que des redites épouvantables.
Est-ce qu'il peut y avoir un effet un peu boule de neige, Bastien? On se rend compte dans sa question que bon, il vient de se rendre compte que sa verge était courbée, on a l'impression qu'il pense un peu qu'à ça, il peut faire peut-être une sorte de fixette. Est-ce que ça pourrait engendrer justement des troubles d'érection s'il focalise trop là-dessus justement?
Oui, s'il se juge trop, s'il est dur avec lui de toute façon, eh bien il ne sera peut-être pas dur tout le temps quand il le faudrait. Donc de fait, être obsédé par soi, c'est se regarder soi, or faire l'amour avec l'autre, c'est rencontrer l'autre. Donc de toute façon, comme je disais tout à l'heure, si une jeune fille avec qui il va faire l'amour regarde si elle a les seins qu'il faut avoir et s'ils sont exactement pareil l'un et l'autre, eh bien elle va se regarder ou elle va compenser pour avoir une posture, une position, et elle sera tellement préoccupée par elle qu'elle ne serait pas dans le plaisir de la rencontre et de la jouissance.
Jimmy ?
Et cette courbure, lorsqu'elle est modérée, enfin, elle n'est pas responsable de douleur pour la partenaire.
Absolument
c'est
pas.
C'est comme si elle avait un rapport sexuel, on va dire, normal.
Absolument, parce que de toute façon, le vagin va s'adapter complètement à ce qui le pénètre. Donc, et puis, c'est ça aussi, les femmes ne sont pas des planches à pain. Elles bougent, elles se mettent dans une position qui leur est confortable. Et elles sont censées aussi se mouvoir suffisamment, en tout cas, ou se cambrer, décambrer au contraire, pour accueillir le pénis là où elles souhaitent le recevoir. Donc, courbure, pas courbure, ça ne change absolument rien, à moins évidemment, d'être deux maladresses qui se rencontrent.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Aujourd'hui, on a parlé pas mal anatomie, c'est rassurant, on en a besoin parfois. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, dans 100 rendez-vous, une émission consacrée à la gastro. Nous sommes en pleine épidémie et vous entendrez tous les gestes à retenir pour éviter d'être contaminé. On parlera évidemment de comment guérir la gastro, ça se passe assez vite en général. Mais tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipe sauvage. Eux, ils sont en pleine forme, ça c'est sûr. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Aujourd'hui, je vous ordonne de rester avec nous Mélanie, puisque c'est la 100e de l'équipe sauvage, et qui dit 100e dit invité exceptionnel. C'est François Berléand qui sera avec nous. Il est dans un film la semaine prochaine et au théâtre le 25 février au théâtre Antoine à Paris. Quelque chose me dit qu'on devrait passer un bon moment, car vous savez, François Berléand est un bon vivant. Or, notre chroniqueur Olivier Pouls aurait une petite surprise pour lui. À tout de suite.
Très beau programme Mathieu, on sera à l'écoute. Je vous souhaite une très bonne émission et vous, restez sur Europe 1.